Donc le silence, c'est quand les gens parlent pas. Sauf moi. Alors dans un premier temps, j'ai une petite annonce. Peut-être que vous avez vu les affiches, mais si vous les avez vues, elles sont pas affichées. Elles y sont pas depuis très 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 longtemps. La semaine prochaine, il y aura un petit événement qui se tiendra, je crois que c'est à Nogent. Non, c'est la Maison de la Culture du Japon à Paris. Vous savez où c'est la Maison de la Culture du Japon à Paris? Bon, c'est au bord de la Seine. Et il va y avoir un colloque sur l'histoire de la photographie au Japon, sur un intervalle de temps assez court, puisque c'est 1900-1945. Et bon, il se trouve que ce sont deux enseignants d'ici qui s'occupent de l'organisation de ce colloque. Vous les connaissez probablement, puisqu'il s'agit de Michael Luquen, qui est le directeur du département, et de Sandrine Tabar, qui normalement doit sévir encore en première année, je crois. Le programme, est, vous pouvez aller le récupérer au secrétariat, hein, il est en accès libre, vous pouvez prendre des pamphlets comme ça. Pour vous donner une petite idée, c'est vraiment un gros colloque. Hein. Tant sur la technique photographique que sur les sujets traités par la photographie pendant, on va dire, les 50 premières années du 20e siècle au Japon. Oui ? C'est la semaine prochaine, le 4 et 5 décembre. Donc là où il n'y a pas de chance, c'est que c'est normalement à des moments où vous avez cours, quoi, pour beaucoup d'entre vous, je pense. Mais bon, disons que pour un événement de ce type, il y a très certainement moyen de s'arranger si vous souhaitez y aller. Hein, il y aura Anne-Mayer Sakai, qui est aussi enseignante ici, qui va parler. Michael Luquen, des gens que je connais pas aussi. Claude Esteb, qui lui est photographe, donc il y a aussi des praticiens, si vous voulez, de la photographie, enfin des photographes, quoi. Enfin, plein de choses. Moi, je vous conseille d'aller récupérer la petite brochure au secrétariat, ça vous donnera une idée précise de ce que ce sera, si c'est susceptible de vous plaire ou pas, quoi. Ensuite, j'ai une deuxième annonce qui est relative au cours de la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé du premier shogun, on a parlé du dernier shogun. Et il se trouve que, en rentrant en métro, je me suis rendu compte que ma langue avait fourché. Le dernier shogun, c'est pas Tokugawa Ienobu, ça c'est le deuxième en fait shogun. Le dernier shogun, c'est Yoshinobu. Hein? Donc je vous le dis de manière à ce que vous-même ne fassiez pas l'erreur sur ces données factuelles-là. Oui. Oui. Le Bakufu, c'est le gouvernement du shogun, si vous voulez. Ça veut dire littéralement. C'est la même chose, simplement shogunat, c'est un mot, on va dire, européen. Hein, en anglais, en français, en allemand, on utilise le terme de shogunat pour désigner le gouvernement du shogun. Alors que Bakufu, c'est du japonais, tout simplement. C'est le gouvernement de la tente. Et la tente, généralement, c'est ce qui caractérise le guerrier en campagne. Donc c'est pour ça qu'on a gardé, enfin que les Japonais ont gardé cette image pour caractériser le gouvernement militaire japonais de l'époque. Quoi. Donc je vais commencer le cours et donc je vais demander le silence. Parce que là, pour le coup, s'il n'y a pas de micro, il va falloir être rigoureux. Et ceux que les cordes vocales démangent, autant qu'ils sortent tout de suite, parce que là, le moindre bruit, ça va être très 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 pénible, très 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 irritant. Les deux derniers cours, vous me dites évidemment si vous entendez ou pas assez, que je monte le volume ou pas. Hein. Vous entendez là quand je parle comme ça ou pas? Au fond, vous entendez pas? Pas trop, j'ai parlé plus fort. Donc les deux derniers cours, on les a essentiellement passés à discuter de ce qu'était l'État dans l'histoire du Japon, de l'Antiquité jusqu'au Japon moderne, c'est-à-dire l'Ancien Régime, le Japon d'Edo. Et on a traité des éléments centraux qui faisaient cet État, à savoir essentiellement les éléments de légitimité politique. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a évoqué la question donc de la fonction impériale, qui n'était pas une fonction, mais qui était plus une tradition qu'on utilisait au moment opportun quand il s'agissait de recentrer la légitimité sur les gouvernants. Donc on a parlé de l'Antiquité, on a parlé de l'Ancien Régime. Donc maintenant, on va parler du Japon contemporain, c'est-à-dire le Japon d'après 1867-1868, donc le Japon de Meiji. Le problème, quand il s'agit de traiter de l'État à partir de Meiji, c'est que, en fait, on ne peut plus parler simplement de l'État. Parce que bon, l'État de Meiji, institutionnellement, au niveau de son fonctionnement politique, d'une manière générale, va peu à peu se construire comme un État européen, comme un État occidental. Sur le plan des institutions et tout ça, petit à petit, le Japon se transforme en une monarchie de type constitutionnel. Mais c'est pas que ça. Ça, à la limite, c'est relativement facile à expliquer, de dire qu'à partir de Meiji, le Japon change de régime politique et que ça va devenir progressivement une monarchie constitutionnelle. On pourrait dire que bon, ça y est, voilà, là on a parlé de ce que va être l'État à Meiji. Le problème, c'est que quand on parle de Meiji, donc parler simplement de l'État, quand on veut parler de l'État, c'est pas suffisant. Parce que Meiji, c'est pas simplement la construction d'un nouvel État, c'est la construction de ce qu'on appelle en histoire, mais maintenant c'est du vocable qui est passé quand même dans les médias, c'est ce qu'on appelle un État-nation. C'est-à-dire qu'à la construction d'un nouvel État, on va se mettre à considérer le peuple à l'intérieur de la construction de ce nouvel État. Alors que jusqu'à présent, les États se construisaient un petit peu entre élites, ou militaires, ou politiques, ou intellectuelles, enfin entre les élites, c'est-à-dire ça se jouait sur à peine quelques pourcents de la population d'un pays. À partir de Meiji, on va essayer de construire ce qu'on a essayé de construire aussi en Europe pendant tout le 19e siècle, une organisation étatique qui ne repose pas exclusivement sur ces élites, mais également sur un socle beaucoup plus large qui est celui de la population. Et donc la population va arrêter de n'être qu'une population, puisqu'on va essayer de l'intéresser au dessein du pays. La population va devenir une nation. Quand on parle de nation, généralement, on fait référence à une communauté de valeurs, un sentiment qui fait que des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, y compris sur le plan linguistique, puisque le Japon à cette époque-là est absolument pas unifié linguistiquement, on va se mettre à essayer de construire une identité qui dépasse les régionalismes, de manière à créer finalement un esprit collectif. C'est ça, la nation. Et donc l'État-nation, c'est quelque chose qui articule le politique avec le social, le national. Pour aborder, donc ça veut donc dire que quand on parle de Meiji, on est obligé d'aborder la question de la construction nationale. C'est plus simplement la construction d'un nouvel État, c'est vraiment la construction nationale. C'est ce qui va devenir l'enjeu du Japon, après que ça a été l'enjeu, par ailleurs, de la France plutôt, et des grandes puissances européennes d'une manière générale. Et pour aborder ce volet de la construction nationale, il y a plusieurs domaines que généralement en histoire on a tendance à privilégier. Vous avez le domaine de l'éducation. Le domaine de l'éducation, éducation obligatoire, il faudra ajouter immédiatement, hein, c'est-à-dire l'instruction, hein, si vous voulez. Et par conséquent, on pourrait très bien essayer de cerner les phénomènes de construction de la nation japonaise en tant que communauté nationale qui se reconnaît comme telle, parce que c'est ça qui est important, c'est la reconnaissance de soi-même, quelle que soit la région du pays dans laquelle on habite. Mais le problème de l'école, le problème de l'instruction et des politiques d'instruction dans les velléités de construction donc d'une identité nationale, c'est que c'est beaucoup trop vaste comme thème. C'est beaucoup trop vaste, c'est quelque chose qui se construit véritablement dans un temps qui est extrêmement long, et d'une manière générale, c'est quand même quelque chose qui est encore extrêmement local, c'est-à-dire que les politiques éducatives, elles sont de toute façon toujours inscrites dans une localité, si vous voulez. C'est pas, même s'il y a une politique d'État nationale qui est au sommet, il faut s'adapter au terrain des localités. Ce qui fait que finalement, on a du mal à saisir tout de suite les intentions. Enfin, si on connaît les intentions de l'État, mais on a du mal à percevoir rapidement l'impact, si vous voulez, sur l'image qu'ont d'elles-mêmes les populations. Ça prend beaucoup de temps, et par conséquent, c'est tout à fait légitime de travailler sur ces choses-là, sauf que à l'échelle d'un cours général comme ça, c'est pas du matériau utilisable. Le deuxième élément, donc trop vaste, hein, l'éducation. Le deuxième élément, c'est la réforme de l'État et des administrations eux-mêmes. C'est absolument capital, puisque les textes administratifs, les déclarations politiques, toutes ces réformes, finalement, permettent de renseigner sur ce que sont les intentions de l'État. Donc, quelle identité, quelle image, quel modèle l'État, en haut, donc, veut appliquer aux populations. C'est un côté un peu programmatique, en plus, qui est intéressant quand on essaye de voir quelles ont été les politiques de l'archipel sur le japonais pendant 50 ans, par exemple. Le problème, c'est que les décisions de l'État en haut lieu, entre les décisions de l'État en haut lieu et concrètement ce qui se passe dans la population, il y a toujours un écart qui est très difficile à mesurer. Enfin, c'est mesurable, mais c'est plus compliqué à mesurer. Par ailleurs, les discours politiques ou les discours administratifs peuvent être contradictoires de ce qui va se passer réellement sur le terrain. Hein. Vous savez très bien ce que c'est la politique et les grandes déclarations. On va vous dire, on veut la sécurité pour les Français, et puis en réalité, c'est simplement un argument incantatoire. Et puis dans la réalité, en fait, c'est plutôt le contraire qui se passe, hein, voire il se passe rien. Ou bon. Donc... c'est toujours le problème du décalage entre le projet administratif, si vous voulez, et son application sur le terrain. Donc on arriverait à dresser une image, on va dire, de l'identité nationale japonaise en fonction des textes administratifs, mais finalement ça ne serait que l'image qu'on a dans les textes administratifs. On n'aurait absolument pas la certitude de la manière sur le terrain, si vous voulez. Et puis enfin... Et pour parler directement des gens, si vous voulez. Enfin, c'est ce que moi j'ai décidé de choisir comme prétexte, comme moyen pour parler de l'identité nationale en rapport direct avec les gens, quoi, si vous voulez. C'est la mise en place de la conscription. Alors la conscription, c'est le service militaire, hein, en langage plus militaire. pourquoi la conscription ? Alors, c'est pas spécialement parce que j'aime l'odeur du sang et de la poudre. Hein. C'est tout simplement qu'en réalité, c'est quelque chose d'assez protéiforme. La programmation militaire, hein, appliquée aux populations. Protéiforme dans le sens où ça permet de toucher l'aspect réformiste du nouvel État. Hein, donc... ce qu'on perçoit déjà dans les textes administratifs, bon, on voit bien que c'est réformiste, mais on n'arrive pas bien à voir comment ça va avoir des implications dans la société. Mais grâce à l'application du service militaire, on voit concrètement comment ça va marcher. Donc ça permet de percevoir le côté réformiste de l'État et de voir de quelle manière les réformes d'État vont être suivies d'effets escomptés ou pas escomptés. Donc ça, c'est un premier avantage. Ça permet de tester l'État sur ses intentions. Donc ça permet de toucher au changement de l'ancien régime, quoi, si vous voulez. Et puis, ça permet de toucher la réalité sociale de l'époque, dans la mesure où la conscription est une machine, c'est pas une machine abstraite, hein, c'est une machine à incorporer. À incorporer, à intégrer, à briser, si c'est nécessaire, mais c'est une machine à incorporer. Le peuple, hein, en l'occurrence, évidemment, et de l'incorporer au dessein de l'État. Donc c'est pratique, quoi, en gros. Le service militaire, étudier le service militaire, les modalités de son application, c'est pratique pour l'historien, parce qu'il y a tout un tas de statistiques, tout un tas de données, région par région, mairie par mairie, qui permettent vraiment d'ausculter le corps national dans ce qu'il a de plus réel, si vous voulez. Ça permet notamment de dresser un bilan sanitaire, puisque quand on incorpore des conscrits, généralement, il y a une visite médicale. C'est grâce au service militaire instaurée à Meiji qu'on arrive à savoir quel est l'état sanitaire général de la population japonaise. Enfin, le service militaire, au-delà de son côté, on va dire, purement et simplement militaire, c'est vraiment un instrument qui permet d'ausculter l'état de la société et évidemment de l'humanité masculine du Japon, puisque bon, le service militaire s'applique aux garçons. C'est pas un scoop, mais c'est comme ça. Hein. Enfin, en tout cas, c'est comme ça pendant longtemps. Ensuite, y a la question de la légitimité historique. C'est-à-dire en quoi... Bon, c'est pratique, le service militaire, d'accord, mais sur le plan historique, qu'est-ce que ça apporte comme éclairage réel sur le Japon, sur les sociétés en général, et pourquoi, finalement, c'est important, dans le cas du Japon, de traiter de la conscription du service militaire si on veut comprendre l'orientation que va prendre petit à petit le pays, notamment donc dans sa politique de fabrication d'un corps national. En fait, la raison historique, elle dépasse largement le cadre du Japon. C'est que tout au long du grand 19e siècle, le grand 19e siècle, j'ai déjà expliqué ce que c'était, c'est en gros la fin du 18e siècle, c'est-à-dire l'âge des révolutions, jusqu'à la guerre de 14-18, y compris dans le cas du Japon. Hein. C'est-à-dire au cours du grand 19e siècle, toutes les grandes puissances de l'époque, toutes, vont élaborer un système de conscription. Par conséquent, c'est un phénomène qui est universel dans la course à la puissance, si vous voulez. Et rien que pour ça, dans le cadre de la réforme que va constituer le Japon de l'ère Meiji, rien que pour ça, c'est important de le noter. Aussi pour une autre raison, c'est que le service militaire va faire éclater tout un tas de classes sociales et de castes qui étaient celles d'Ancien Régime. Ça, on reviendra là-dessus. J'ai déjà évoqué la question, enfin le fait que entre l'époque moderne et l'époque contemporaine, donc entre l'Ancien Régime et l'époque contemporaine, la différence la plus importante, c'est que dans le cas de l'époque contemporaine, le caractère national se met petit à petit à primer sur tout le reste. Oui.
Il faut
savoir, il copie le modèle grec.
Alors
je vais y venir, oui, je vais y venir là-dessus, on va détailler tout ça. Parce qu'effectivement, enfin, en tout cas dans le cas de l'Europe, c'est le modèle grec qui est la référence, je vais même citer un exemple grec tout à l'heure, mais je vais y venir. Hein. Donc l'époque contemporaine, elle se caractérise avant tout, en tout cas dans son début, par la construction puis le triomphe de ce qui est national. Et on voit que de nos jours... Finalement, on est toujours dans les problématiques nationales, puisque même si on essaye de déconstruire la nation pour essayer de proposer peut-être autre chose, on en est quand même toujours à discuter de ce qu'est la nation. Là, on est en train de nous casser les oreilles avec des débats sur l'identité nationale, ce qui prouve que les politiques n'ont pas compris grand-chose à ce que c'était l'identité nationale. Hein. C'est pas sur un forum internet qu'on décide de ce que c'est l'identité nationale. L'époque contemporaine est une époque... De la nation, si vous voulez. Et il se trouve qu'à chaque fois dans l'histoire où on a voulu construire la nation, où la nation a fini par aboutir, on en est toujours passé, en tout cas dans un premier temps, par un processus d'incorporation militaire. Et donc dans le cas du Japon, c'est intéressant justement de se pencher sur cet outil qu'a donc été le service militaire. Ce qui m'amène au précédent finalement historique, de la conscription, si vous voulez. Alors, il y a des précédents. Je vais traiter trois cas de figure. Hein, deux qui relèvent de la culture générale où on n'est pas dans le Japon, et puis en dernier lieu, ensuite, du Japon, et puis on ne lâchera plus le Japon jusqu'au bout. Mais dans l'Antiquité, effectivement, on faisait appel aux citoyens. C'était même la capacité à pouvoir participer à la guerre qui faisait qu'on était un citoyen. C'était une capacité économique, il fallait avoir les moyens de se payer son équipement militaire pour pouvoir aller se battre, et c'était ce qui fondait en fait la citoyenneté. Et effectivement, les grandes nations du 19e siècle ont à quelques nuances près, globalement repris, sans forcément décider que ceci était le modèle ou que cela était le modèle, mais ont forcément repris ces mécanismes-là pour incorporer et intéresser leur population aux politiques, à la politique du pays. Ce qui, remarquez, est assez logique dans la mesure où quand vous faites la guerre et que vous allez incorporer la population et aller la faire s'étriper sur les champs de bataille, tout de suite, elle est très intéressée par la politique. Hein. Surtout quand, en plus, l'élite militaire a tendance à passer derrière les lignes. Hein. Très, 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 très loin derrière. Ça aussi, on reviendra là-dessus, peut-être. Donc, je vais parler de trois cas de figure. Un cas qui relève de l'Antiquité grecque, parce que c'est de la culture générale et que ça permet un peu de comprendre ces phénomènes de changement d'échelle, où on passe de société d'ancien régime, où on a des castes sociales qui gouvernent, et les sociétés contemporaines, où il y a un glissement d'échelle qui se fait vers les échelons plus bas de la société, où donc le socle social participant à la vie politique devient de plus en plus large. Donc l'Antiquité, je parlerai aussi... des lendemains de la Révolution française, non pas parce que c'est la Révolution française, mais c'est parce que tout de suite il y a la guerre, et que ça permet de comprendre un certain nombre de réflexes qui vont relever de l'identité nationale justement à ce moment-là. Et puis ensuite, je passerai de manière approfondie également la semaine prochaine sur le Japon et ce que donc le service militaire au Japon va apporter, briser, impliquer, rendre possible, rendre impossible. Alors bon, le premier cas de conscription est donc ancien, puisque c'est de l'Antiquité, puis c'est de l'Antiquité très très ancienne, puisque c'est ce qu'on appelle la Grèce archaïque. Hein, ça remonte avant la République à la grecque athénienne. Et je vais prendre l'exemple d'un personnage que peut-être vous avez vu déjà dans les cours d'histoire au collège et au lycée. Enfin, je sais qu'il a été à une époque dans les manuels, vous saurez me dire. C'est un personnage qui s'appelle Solon. C'est de la culture générale. En d'autres termes, c'est le lubrifiant qui permet de faire rentrer ensuite le Japon dans la tête. Dans la tête. Ça va ? J'aurais dû rien dire. Donc Solon. Solon est donc grec. Il est athénien. Il fait partie de l'aristocratie guerrière athénienne du 8e siècle. La fin du 8e siècle. Et début du 7e siècle, avant notre ère. C'est une époque où l'Europe, c'est pas que la Grèce, hein, l'Europe en général est gouvernée et dominée par des aristocraties guerrières. C'est intéressant dans la mesure où le Japon jusqu'en 1867 est dominé par une aristocratie guerrière. Donc voilà, aristocratie guerrière qui domine à hauteur de 2-3% de la population le pays. Et donc Solon, il est contemporain des guerres qui vont opposer tout un tas de cités de l'époque en Grèce, les unes aux autres. Et le grand affrontement de cette époque-là, c'est Athènes contre une ville, une cité, État, qui s'appelle Mégare. Ils vont s'étriper comme des chiffonniers autant qu'ils peuvent, le plus longtemps possible. Et Solon, qui va se retrouver à diriger certaines batailles, va conseiller aux Aristoi, donc à l'aristocratie guerrière d'Athènes, de prendre une île qui finalement aura une longue histoire sur le plan des batailles militaires, mais là ça n'a rien à voir avec les guerres médiques, qui s'appelle Salamine, qui appartient à Mégare à l'époque. Donc ça va marcher... À Mégare, on ne sera pas content. C'est une victoire donc d'Athènes sur Mégare, alors que jusqu'à présent, on pataugeait un petit peu. Donc du coup, Solon, comme on trouve qu'il est décidément très très bien, on va le nommer Archonte. Archonte, à l'époque, c'est un titre qu'on octroie aux membres de l'aristocratie guerrière athénienne et qui sanctionne des personnages qui vont se retrouver du coup avec un pouvoir politique extrêmement puissant. Non seulement il devient archonte, de la cité d'Athènes, mais il va faire voter les pleins pouvoirs. Donc non seulement il est archonte, et puis en plus il a les pleins pouvoirs. Donc il devient tyran, si vous voulez. Sauf qu'on n'utilise pas encore à ce moment-là le terme de tyran. Ça vient après, mais enfin, on s'en fiche. Il a les pleins pouvoirs, il peut faire ce qu'il veut avec n'importe qui. Bon, voilà, il est très fort. Et pourquoi est-ce qu'on va le nommer archonte avec les pleins pouvoirs? Parce qu'en fait, on a bien conscience que la victoire à Salamine, c'est temporaire, et que le système de fonctionnement à Athènes et le système de fonctionnement à Mégare, c'est trop proche, l'équilibre des forces est trop équivalent, ce qui fait que ça risque de durer. Et comme Solon est quelqu'un qui est assez ambitieux puis qui a des idées originales, on va compter sur lui pour réformer le système politique athénien de manière à doter Athènes de rouages gouvernementaux et sociaux qui vont lui donner la possibilité de s'imposer. Ça va marcher, mais Solon va se mettre à dos absolument toute l'aristocratie guerrière. Il va se faire détester par tout le monde. Parce qu'il est aristocrate, mais il n'est pas copain des aristocrates, si vous voulez. Ce qu'il va faire Solon, c'est que sa première réforme, elle a pour objet de régler les problèmes d'occupation du sol. Jusque-là, les aristocrates, les aristoi, puisque c'est le terme qu'on utilise à l'époque, ça veut dire les meilleurs, hein, ils avaient une haute opinion d'eux-mêmes, ils possèdent en effet donc la plus grande partie des terres que les paysans leur avaient hypothéquées faute de revenus. Et les paysans reversaient un sixième à un cinquième de la production de ces terres. Et quand les paysans étaient dans l'impossibilité de payer ce revenu, il devenait esclave. C'est-à-dire que très vite, on se retrouvait avec des brouettes d'esclaves à Athènes. Et pour marquer que telle terre appartenait à tel aristoi et que le paysan était finalement un serf ou un métayer, voire un esclave, on bornait ces terres. Donc, archéologiquement, on en retrouve plein des bornes comme ça. Hein, dans la Grèce, c'était des systèmes de bornes des parcelles, de bornage des parcelles. Ce que va faire Solon, c'est qu'il va faire arracher toutes les bornes. En gros, il dit aux aristoi, vous n'êtes plus propriétaire de rien du tout. Alors vous imaginez les grands propriétaires fonciers qui du jour au lendemain se retrouvent avec plus aucune rente foncière. Ils ne sont pas très contents. Et de fait, ça permet aux paysans de rester sur leurs terres, de ne plus avoir à payer de loyer sur ces terres, et d'être de facto presque propriétaires, si vous voulez, puisqu'ils n'ont plus de compte à rendre sur la propriété terrienne. Donc en gros, Solon institue l'État comme propriétaire symbolique de la terre, et les paysans n'ont de compte à rendre qu'à l'État, et non plus à une espèce de nébuleuse d'aristocrates. Donc en gros, les paysans qui jusqu'à présent étaient à la limite de l'esclavage, pour certains l'étaient carrément, deviennent d'une certaine manière propriétaires de leurs terres et accèdent à un semblant de citoyenneté. Puis sa deuxième grande réforme à Solon, elle va porter sur précisément ce statut de la citoyenneté. Jusqu'à présent, pour être... pour avoir voix au chapitre dans le fonctionnement politique de la cité, il n'y avait qu'une seule solution, c'était le sang. Il fallait être de sang aristocrate. Il fallait être un aristoi. Donc c'était de naissance. À cela, il va poser un système qui ne repose plus sur la naissance, mais qui repose sur les moyens économiques. Hein, il va constituer une quatre classes, si vous voulez, de citoyens, fondée essentiellement sur les revenus fonciers. Donc en gros, alors qu'à Athènes, au 7e siècle, la ville commence à s'enrichir parce qu'il y a de plus en plus de commerce, de négoces avec l'Est de la Méditerranée, en gros, les gens les plus riches, économiquement parlant, de la cité, n'ont pas voix au chapitre, politiquement parlant. Bon, ben, Solon va changer tout ça et va permettre à l'installation finalement d'une bourgeoisie, hein, de haute à petite, à l'intérieur de la ville, de la cité. Puis ça va rendre possible autre chose, c'est la participation à la défense de la cité. puisque la défense de la cité vient avec la citoyenneté, c'est même une obligation. Et par conséquent, ceux qui ont les moyens donc, de se payer, c'est à partir de là qu'on va parler de ce système-là, les gens qui ont les moyens de se payer un harnachement ont les moyens de devenir citoyens et donc de participer à l'activité de la cité. Donc ça veut dire qu'en gros, Solon, qui est un tyran, un vrai tyran, par sa politique extrêmement intransigeante, va réussir en l'espace de quelques années à entièrement réformer la société athénienne de manière à créer véritablement une citoyenneté à base populaire relativement plus large. Et en faisant ça, ça permet de se retrouver avec des effectifs militaires qui sont triplés, voire quadruplés. Ce qui fait que face aux autres cités grecques, Athènes se retrouve dans une position de puissance qui est sans précédent à ce moment de l'histoire-là en Grèce. Donc ça, c'est, on va dire, un exemple que les textes nous rapportent et qui est relativement fondateur en rapport avec ce changement d'échelle. Le fait que, en changeant d'échelle, immédiatement, on implique aussi les nouveaux citoyens de la cité à la défense de la cité. Il faut savoir que le 8e siècle et le 7e siècle, d'une manière générale, en Grèce, c'est une époque qui est extrêmement troublée, et l'Europe en général, c'est une période qui est extrêmement troublée, où il y a beaucoup de mouvements de population, notamment qui proviennent du nord de l'Europe, du nord-est de l'Europe, et sur les pourtours de la Grèce. C'est donc une époque qui est relativement agressive pour les pôles de fixation des richesses. J'aimerais le silence. C'est donc une époque qui est relativement agressive pour les pôles où se fixe la richesse. Les pôles qui sont convoités. Et là où à Athènes on est malin un peu plus que chez les autres, c'est qu'on arrive à trouver un système permettant d'augmenter la base de la participation à la cité et par là même la base de la défense de la cité, de l'intéressement à la défense de la cité. Donc voilà pour l'Antiquité. Et tant que j'ai de la voix, je continue. Puis on a un autre cas qui est quand même beaucoup plus récent, qui est beaucoup plus proche de nous et qui nous parle beaucoup plus en termes de proximité, on va dire temporelle, mais pas forcément en termes culturels. C'est la fin du XVIIIe siècle, au lendemain de la Révolution française. Où on a là encore un autre basculement d'échelle, où d'une société d'ancien régime avec des classes, voire même des castes, qui sont aux manettes du pouvoir et sont peu nombreux, on va passer à une représentation citoyenne quand même. Enfin, d'abord, on va fabriquer le citoyen, ça n'existe pas avant. Avant, on ne parle pas de citoyen. On va passer à une participation politique, sociale, beaucoup plus large qu'est-ce qu'elle n'était avant. Donc, changement d'échelle, là, à nouveau. La Révolution française, finalement, c'est une occasion d'élargir la base, là, à nouveau. Un moment de crise qui permet d'élargir la base. De la même manière qu'en Grèce, un moment de crise avait permis de donner les pleins pouvoirs à quelqu'un et d'élargir la base. Et là aussi, l'élargissement de la base, il se fait au plan militaire. Avec les levées successives, et c'est là où, en fait, on se rend compte que ça n'a pas de rapport direct. En fait, ça vient après la Révolution, mais ce n'est pas la Révolution elle-même. On va avoir deux grandes levées successives sur le plan militaire, celle de 1792 et de 1793, c'est ce qu'on appelle les levées en masse. Où il s'agit en fait de former les effectifs de l'armée qu'on va appeler l'armée de la Convention. Il y a des stations de métro à Paris. L'armée de la Convention, qui vont atteindre fin 1793 plus d'un million d'hommes. Ce qui fait qu'en l'espace d'à peine un an, on arrive à lever des troupes à hauteur de plus d'un million d'hommes. Ça aussi, c'est absolument sans précédent à l'échelle de l'histoire européenne. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que vous êtes au courant, après la Révolution française, on n'a pas été très sympa avec le roi, qui n'avait pas été très sympa non plus avec nous. Et en gros, l'Europe déclare la guerre à la France. Ce qui fait que c'est dans un contexte de crise internationale extrêmement forte, où de toute façon, s'il n'y a pas une réaction qui est faite, la France va être la proie d'une conquête extraterritoriale et probablement morcelée, qui fait qu'on arrive à mobiliser plus d'un million d'hommes à qui on va, auxquels on va promettre la citoyenneté, hein, par ailleurs. Donc en gros, les nouveaux citoyens, on leur dit, voilà, vous êtes nouveaux citoyens, mais tous vos voisins européens, ils veulent vous piquer la citoyenneté. Donc les gens ne sont pas contents. Et on arrive à lever plus d'un million d'hommes, et on arrive à opposer aux armées européennes, des armées pas forcément toujours bien équipées, de plus d'un million d'hommes relativement motivés, plus motivés en tout cas que les mercenaires ou les serfs des autres armées européennes. Ce qui fait que ça permet de construire finalement une identité française à ce moment-là, sur ce moment de crise où des gens qui avaient absolument rien à voir les uns avec les autres, hein, se sentent concernés par une cause commune. Et c'est cette cause commune de l'invasion européenne qui va faire se mobiliser les gens. Puis ensuite, vous connaissez l'histoire, hein, Napoléon va savoir utiliser cet élan et ça va l'amener jusqu'à Moscou. Et là, ça n'a plus rien à voir avec la levée en masse et la résistance par rapport aux invasions européennes. Au moment de l'armée de la Convention, le système qui est utilisé, il est assez simple, hein, c'est le tirage au sort. Le tirage au sort des hommes célibataires ou veufs entre 18 et 30 ans. Donc c'est assez large. Hein. Et c'est assez violent. Hein. C'est-à-dire que les gens, on va aller chercher chez eux. Hein. Donc ils ne sont pas toujours d'accord quand même. Hein. De fil en aiguille, on arrive en 1798, et c'est là qu'en fait, on va véritablement voter un système de service militaire en France. Et c'est le premier système de conscription de l'histoire contemporaine. Hein, tout pays confondu. Oui. 1798. Il y a une loi, hein, pour parler de ce moment-là, on appelle ça s'appelle la loi Jourdan. C'est important parce que cette loi Jourdan, elle va servir de modèle à beaucoup de pays de par le monde, y compris au Japon. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de parler de l'histoire de la conscription en France si on veut comprendre l'histoire de la conscription au Japon. Et 1798, pour vous donner une idée de ce que ça rend possible, c'est Napoléon en Égypte. Hein. C'était pas possible d'aller s'étriper avec les Anglais ailleurs qu'en France sans avoir une très très grande armée. Hein. Donc, tout d'un coup, on se retrouve avec des effectifs extrêmement importants. Et pour vous donner un peu la lettre de cette loi Jourdan, mais je vais recopier, je vais vous dire ce que c'est. Et donc je cite... Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie. Hors le cas du danger de la patrie, l'armée se forme par enrôlement volontaire et par la voie de la conscription. Hormis le fait que maintenant il n'y a plus de conscription, en réalité c'est exactement le même système qui existe toujours de nos jours. C'est-à-dire que demain il y a la guerre, on est tous mobilisables, hein, du jour au lendemain. Hein. C'est écrit dans la Constitution. Hein. Donc il n'y a plus de service militaire, mais en fait, il n'y a plus de service militaire, c'est tout. Et donc cette espèce de carcan qui va être, cette espèce de loi qui va être posée à ce moment-là va faire école un peu partout en Europe. Et ce service militaire devient le critère d'accession à la citoyenneté. Sauf que là, effectivement, on ne demande pas aux gens d'avoir les moyens de faire le service militaire, c'est l'État qui y pourvoit. Alors... qu'est-ce qui est différent par rapport aux armées d'Ancien Régime? C'est que les armées d'Ancien Régime, elles sont composées d'une part de cadres, plus ou moins élevés, d'accord, mais qui sont des cadres de l'aristocratie française, allemande, enfin à l'époque c'est pas l'Allemagne. Hein, c'est... Et dans le cas du Japon, bon, en gros c'est pareil. Et lesquels sont entourés de mercenaires. Donc des gens qui touchent une solde. Ce qui fait que les effectifs des troupes d'Ancien Régime sont généralement caractérisés par un taux de désertion qui est absolument abominable. dans la mesure où, lors d'une bataille un peu tendue, les mercenaires, s'ils voient qu'ils vont y laisser la peau, ils ont tendance à se tailler parce que ça ne les intéresse pas de mourir, quoi. Ce qui les intéresse, c'est de se battre et de gagner des sous. Avec la conscription, on change le paradigme, hein, en fait. Alors en France, il va y avoir une accalmie, c'est-à-dire que après les aventures napoléoniennes, enfin l'aventure napoléonienne, la première surtout, comme vous savez, on va s'acheminer vers des logiques plutôt restaurationnistes, hein, où on va se retrouver à nouveau avec des monarchies. Et d'une manière générale, l'aristocratie ou la haute bourgeoisie française est terrifiée par ce qu'ont produit les guerres napoléoniennes sur le plan militaire. C'est-à-dire que ça a fabriqué des citoyens qui d'abord savent se battre, et puis pas qu'un peu, hein, parce que les guerres napoléoniennes, c'est quand même pas de la gnognotte, et qui sont par ailleurs complètement dans un discours, j'aimerais le silence, sinon vous sortez, c'est aussi simple que ça. Ça crée des logiques de l'héroïsation, si vous voulez, du citoyen, qui sont pas du tout ce que voudrait l'élite restaurationniste française, hein, pour la simple et bonne raison que ça leur fait peur. Hein. Une monarchie à l'époque, on la pense, en tout cas en France, on aimerait surtout avoir des citoyens, enfin plutôt des sujets, que des citoyens un peu enragés, quoi. Or, il se trouve que les guerres napoléoniennes, ceux qui en reviennent, ont tendance à être plutôt virulents, quoi. Hein. Donc ça fait vraiment peur à l'élite restaurationniste française. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, ces contradictions, on les a également dans la société japonaise à partir de 1867-1868, et ça m'amène enfin à parler du Japon. Alors 1868, c'est encore un de ces cas où l'histoire est à la frontière entre deux échelles. L'échelle des classes, et donc l'échelle du national. Ça ne veut pas dire que parce qu'on passe tout de suite à Meiji, tout le monde, enfin ça y est... le peuple japonais, la nation japonaise est faite. Non, c'est un processus. Mais on sent très bien que quand on va basculer dans Meiji, petit à petit, ce processus se met en marche et que donc, on est dans un contexte historique qui est véritablement différent. Non pas que les classes vont disparaître, que les classes ou les castes même, hein, vont disparaître au lendemain de la Révolution française ou au lendemain de Meiji. Hein, ça continue d'exister. Simplement, les classes sont moins étanches que du temps de l'Ancien Régime, où en fait, quand vous naissez dans une classe, l'ascension sociale est d'une part très difficile, mais non seulement, elle est parfois interdite. Hein, faut savoir que dans le cadre de la société d'Edo, même si ça a été moins étanche qu'on a pu le raconter, d'une manière générale, dans le cadre de la société d'Edo, quand vous naissez dans une famille de musiciens, par exemple, l'économie sociale de l'époque veut que vous soyez vous-même musicien. Donc il y a une reproduction, on va dire, sociale à l'intérieur des mêmes classes sociales, et ceci est fixé par la morale politique de l'époque. Et ça, avec Meiji, ça change. Ça met du temps à s'installer, mais très tôt, on proclame qu'effectivement, il n'y a plus de classe étanche. Et une manière de faire éclater ces classes, justement, ça va être la conscription, le service militaire. Puisqu'en réalité, le service militaire, on n'aura plus à obéir qu'à des officiers et non plus à des seigneurs féodaux, si vous voulez. Hein. Par conséquent, la hiérarchie, elle s'inscrit à l'intérieur d'un cadre de compétences et non plus à l'intérieur d'un cadre hiérarchique où la hiérarchie, elle est de sang, si vous voulez. Vous avez les aristocrates en haut et le peuple qui se bat en bas. Et donc l'équivalent de la loi Jourdan japonaise, si vous voulez, elle est passée, elle est votée. C'est un décret. En 1873, on parle de décret sur la conscription pour désigner ce moment. C'est donc un décret qui est passé en 1873. Et là, on va décider que les hommes âgés de 20 ans auront l'obligation de servir durant 3 ans. Ça, c'est donc la première réforme. Il y aura un second moment de réforme où on va un peu affiner le système en 1889. Et la troisième, mais véritable réforme là, du système militaire japonais qui va accompagner l'armée japonaise dans une escalade militariste, c'est 1927, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, justement au moment où le Japon est en train vraiment de partir dans des logiques expansionnistes et un système politique qui est tenu par les militaires. Et c'est en fait là qu'on va parler, en 1927, de loi du service militaire. Donc vous aviez un décret sur la conscription, et en 1927, vous avez une loi du service militaire. Et entre 1873 et 1927, donc il se passe quand même beaucoup de temps. Alors, dans le cas de la réforme Meiji, bon, effectivement, on dit qu'ils vont essayer d'appliquer... Oui ? C'est la constitution de Meiji. Hein, donc c'est la proclamation de la constitution, de la première constitution de l'État japonais. Et à l'intérieur de cette constitution, effectivement, on va repréciser un certain nombre d'éléments en rapport avec l'armée. Quoi. Mais c'est d'avant. Non. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en 1873, ce qu'on avait fait passer n'était pas tout à fait adapté, et on va affiner la mécanique. Mais en gros, on ne change pas les fondamentaux. Alors qu'en 1927, on va vraiment modifier le système. Alors dans le cas de Meiji, même si effectivement on peut dire que 1873 c'est une espèce de loi Jourdan japonaise, il y a quand même beaucoup d'originalité dans l'instauration du service militaire au Japon. D'abord, l'ancien régime japonais, il est beaucoup plus proche sur le plan des élites politiques de l'ancien régime, beaucoup plus proche justement de la Grèce d'avant les réformes de Solon. C'est-à-dire que c'est une aristocratie guerrière qui est aux commandes. Et ensuite, c'est un régime qui est très différent des systèmes sur-institutionnalisés, sur-centralisés, des systèmes monarchiques absolus de l'ouest de l'Europe, en l'occurrence par exemple le système français. Hein. Les armées du Japon, à Edo, ce sont des armées qui sont seigneuriales. Hein, si vous voulez, chaque seigneur dans chaque région, dans chaque fief, à ses hommes, et c'est ça la force militaire au Japon jusqu'en 1867-68. Alors évidemment, chaque seigneur a son armée, si vous voulez, a ses vassaux. Mais tout ça, et c'est pour ça qu'on peut quand même dire que l'époque d'Edo, c'est quand même un système qui, mine de rien, est quand même centralisé, mais tout ça est chapeauté par l'autorité du shogun, donc du généralissime, qui va décider quel seigneur a le droit d'avoir quelle puissance militaire. Combien d'hommes, quel type d'armement, quel type de fortification. Donc la fortification, l'entretien des troupes et tout ça est laissé à la charge du seigneur, mais en gros c'est le shogun qui décide quelle va être la composition des effectifs militaires. Donc on a un système étatique centralisé, mais qui repose sur un système régionalisé, voire localisé, relativement souple, qui hérite du passé féodal, finalement, donc de l'aristocratie guerrière. Et on ne peut pas dire la même chose des royautés en Europe de l'Ouest au même moment. Le roi, c'est pas l'armée du roi, même si on dit que c'est l'armée du roi, c'est l'armée du royaume de France. Hein. C'est l'État. Il y a un ministre de la guerre, enfin tout ça est extrêmement déjà cadré sur le plan administratif. Ce qui fait qu'à Meiji, en fait, avant les réformes, la force armée est celle des aristocraties avant toute chose. Et la force militaire du gouvernement, c'est en fait la force de ses soutiens au gouvernement. Donc ses vassaux, les seigneurs qui relèvent de son autorité. C'était valable dans le cas du shogun, ça va être valable dans le cas du tenno, et donc du gouvernement de Meiji, où donc les armées du gouvernement de Meiji, ça va être les armées des fiefs de Choshu, Satsuma et Tosa, que j'ai déjà évoqué, et que je vais renoter au tableau, parce que c'est important. Et chacun apporte une expertise différente, hein, sur le plan militaire. Tosa, par exemple, ils sont pas mauvais pour tout ce qui est la marine, y compris pour Satsuma. Choshu, en revanche, ils sont relativement polyvalents. Et puis ils sont surtout très gros. Et ce qui fait que finalement, les armées du premier état de Meiji, ce sont des armées seigneuriales. Et qui sont dirigées par les hommes forts des fiefs en question. Donc alors qu'on est dans un système étatique qui veut se moderniser, en réalité, la force militaire n'est pas une force étatique au sens strict, c'est encore une force qui repose sur un découpage ancien. Et puis, ces élites qui gouvernent donc la puissance militaire à cette époque-là, ce sont donc les hommes forts de ces fiefs, et il faut retenir 3-4 noms, en fait, pour avoir une idée de qui gouverne quoi et à quel moment, parce que ces gens-là sont aussi des réformistes. On va voir qu'ils ne vont pas s'endormir sur ce système militaire-là, mais qu'ils vont proposer un autre très rapidement. Il s'agira d'abord d'un personnage très important, mais qui va mourir vite, qui s'appelle Omura Masujiro. Qui vit de 1824 à 1869. Lui, c'est pour le fief de Choshu. Puis pour Satsuma, vous avez un autre bonhomme qui lui aussi va mourir de mort violente, Saigo Takamori. Qui vit de 1828 à 1877. Pour Satsuma, donc. Et puis pour le retardataire, qui est le fief de Tosa, parce qu'ils arrivent en retard.
Ils arrivent en retard.
Vous avez Itagaki. Aisuke. Qui lui aura la chance de vivre plus longtemps. De 1837 à 1919. Je crois qu'il meurt dans son lit, lui. Et donc, ça revient à dire que le gouvernement n'a pas d'armée lui-même. Donc, le Tenno n'a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée impériale au stade de 1867-1868. Et en réalité, ce sont ces gens-là qui vont réfléchir à ce qu'on peut proposer à la place du système d'ancien régime. Et dans la proposition, tout de suite, on voit surgir la question du peuple. Donc, c'est-à-dire que on ne parle pas de droit de vote, on ne parle pas de droit civique, on ne parle pas... Non, le premier élément qui vient dans la tête de ces gens-là, c'est peut-être parce que c'est des guerriers, après tout, mais le premier élément qui vient à la tête de ces gens-là pour intégrer la population au nouvel état de Meiji, au dessein du nouvel état de Meiji, la première idée, c'est l'armée. Et cette idée, elle a tendance à se construire en plus contre la vie de l'aristocratie guerrière de l'époque, puisque l'aristocratie guerrière de l'époque considère comme un privilège la violence. La violence est le privilège de la classe aristocratique de l'époque. Et quand on leur dit qu'en gros, le paysan du coin, lui aussi, va avoir le droit de porter une arme, il est un peu vert, le samouraï de l'époque. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire que ces gens-là, finalement, ont su percevoir les limites du système d'ancien régime ? C'est parce que d'abord, très tôt, ils ont compris que tel que s'organisait la défense depuis, on va dire, les guerres de l'opium en Chine contre les Français, Chine-Grande-Bretagne, puis Chine-Grande-Bretagne-France un peu plus tard, ils ont compris que de toute manière, avec les systèmes de défense d'ancien régime, le Japon n'avait aucune chance. La Chine a eu aucune chance, il n'y a aucune raison que le Japon ait davantage de chance. Ils partent de ce constat, si vous voulez. Et donc, il s'agit d'élargir la base, encore une fois, on parle d'élargir la base, de la participation à la défense. Alors, Omura, lui, fait partie de ceux qui, très 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 tôt, avec le petit frère de Saigo Takamori, justement, qui s'appelle Saigo Judo, enfin c'est un lampiste, donc l'histoire l'a pas beaucoup retenu, il est très tôt pour une égalité totale, c'est-à-dire pour... abandonner immédiatement tous les statuts de l'ancien régime et passer à une égalité totale de fait et donc la fabrication de citoyens égaux en droit. Et le terme qui est utilisé, l'idée qui est utilisée à l'époque pour définir cette égalité, c'est celui de Shimim Byodo. Shimin, Shi c'est la lecture on de Yon, hein, donc c'est 4. Min c'est Tami, donc c'est le peuple. Donc c'est les 4 peuples si vous voulez, parce qu'en fait à Edo, le monde est organisé, donc je vous expliquais tout à l'heure, je vous parlais de caste, le monde est organisé en 4 grandes catégories. Vous avez les Bushi, les guerriers en haut, puis vient en deuxième temps les paysans, puis viennent enfin les artisans, et viennent tout à la fin les commerçants. Hein, dans la hiérarchie, on va dire, sociale de l'époque. Et donc, les gens comme Omura Masujiro sont pour la destruction, finalement, de ce système de Shimin, en proclamant le fait que les Shimin sont tous libres, et libre, c'est Byodo, c'est l'égalité. Oui ? Oui, mais non, justement, c'est les hors-castes. Donc, ils ne rentrent pas dans les Shimin Byodo. Ceux-là, on a le droit de tirer à vue, c'est pas un problème. Et c'est ce qu'on appelle les états ou les shinin. Il y a plusieurs types d'appellations pour les désigner. Et ils sont hors caste, si vous voulez, ceux-là. Oui ? Non ? Alors oui, ça, c'est les nobles de cour. C'est la noblesse de cour. Et eux, pour l'instant, là-dedans, ils n'ont pas voix au chapitre. De toute façon, ils n'ont aucune puissance militaire. Ils sont bien contents que ce soit le tenno qui ait le pouvoir. Mais en même temps, c'est absolument pas eux qui ont les garanties de défense du pays. Par conséquent... Quand ils voient Choshu, Tosa et Satsuma discuter de ces questions-là, d'une manière générale, ils se taisent. Hein. Surtout que les discussions sont extrêmement violentes et que ça se règle à coup de règlement de compte en permanence jusqu'au moins la fin des années 1870. Et les quelques nobles de cour qui ont pris la parole, généralement, ils ont fini dans le caniveau. Hein. Donc ils ont tout à fait conscience que là, c'est pas le moment pour eux de prendre parole sur ces questions-là. Le seul qui prendra la parole sur ces questions-là, c'est justement le Tenno. Mais ça, je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Et donc de Shimin Byodo, étant donné qu'on sait bien qu'on ne veut pas non plus réformer trop la propriété foncière, parce que quand même l'aristocratie guerrière est bien contente d'être riche, pour les riches, le seul levier sur lequel on peut jouer finalement pour faire rentrer cette conception d'égalité, c'est le levier militaire à l'intérieur du carcan social qu'est le Japon à l'époque. Et on va utiliser le terme de Omura va utiliser le terme de Kokumin Kaihei. Alors Kokumin, Koku c'est le pays, donc Min c'est à nouveau Tami, donc c'est le peuple, si vous voulez, on ne parle pas de nation encore à ce moment-là. C'est vraiment au sens de peuple. Et Kai c'est Mina. C'est une des lectures de Mina, donc tous. Et He, c'est soldat. Donc en gros, c'est exactement ce qu'il y a proclamé dans la loi Jourdan quand on dit tous les Français sont des soldats, en gros. Hein. C'est exactement la même chose. Et c'est Omura qui a proclamé cette idée-là, si vous voulez. Et Omura, en 1868, 1869, donc juste avant sa mort, quand il parle de ça, il est relativement minoritaire encore. C'est-à-dire que, même si au final c'est son idée qui va être appliquée, dans un premier temps, il y a beaucoup de réticences au sein de l'aristocratie guerrière. Saigo Takamori, lui, il pense à un système de recrutement volontaire, et pas à un système de conscription systématique comme le voudrait Omura. Il pense à un système de recrutement volontaire pour la simple et bonne raison qu'il est malin. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à la fin de Edo, certes, vous avez une aristocratie guerrière qui est encore aux manettes d'à peu près tout, mais ça, c'est vraiment la crème de la crème de l'aristocratie guerrière. En réalité, il y a tout un tas de petits guerriers, hein, de petits samouraïs, qui, même s'ils ont un maître, vivent dans un état de relative misère. Hein. Et ils vont être, ces gens-là, les grands perdants, en fait, de la réforme de Meiji. Puisqu'en gros, on va leur supprimer leur sabre, et ils connaissent aucun métier. Les plus intelligents sont capables d'ouvrir une école pour apprendre à lire et à écrire aux enfants dans certains quartiers de Edo ou certains quartiers des grandes villes. Mais d'une manière générale, la classe guerrière japonaise de la fin d'époque d'Edo, c'est un poids mort pour la société. Et une fois qu'on passe à Meiji et qu'on a proclamé que finalement la classe guerrière n'existe plus, ces gens qui étaient des poids morts, ils vont être en état de clochardisation avancée. Et très 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 vite. Mais comme ils savent, comme ils ont encore un sabre, et que les gens de Choshu Satsumatosa, qui sont à la tête de ces fiefs, craignent pour l'ordre public, tout de suite Saigo Takamori, lui, pense à un système visant à intégrer finalement les membres les plus bas de la classe aristocratique. Donc une manière d'intégrer les guerriers de basse et moyenne extraction, si vous voulez. Selon un système de milices, hein, un peu de factions, d'une certaine manière. Et c'est pas parce que les guerriers savent faire la guerre. On peut même dire qu'à l'époque, les guerriers savent pas faire la guerre, puis ça fait des siècles qu'ils l'ont pas faite de toute façon. Omura est assassiné en 1869. Et finalement, la situation va stagner comme ça jusqu'en 1872-1873, où en réalité, Saigo Takamori va tenter quelques bricoles à l'intérieur de son fief, mais ça ne marche pas, parce qu'en fait, quand vous fondez un système d'armée, on va dire, moderne, avec des gens issus de l'aristocratie guerrière, ben en fait, on se rend compte que tel samouraï, qui pourtant n'est plus samouraï, hein, il est devenu... simple soldat ou sergent ou caporal, il refuse d'obéir à son supérieur hiérarchique qui sera lieutenant, colonel ou je sais pas quoi, pour la simple raison que ce supérieur hiérarchique, en fait, il est de notre fief. Donc on est dans des logiques féodales. C'est une armée qui se veut contemporaine, mais avec des gens qui, de toute façon, dans leur tête, ils fonctionnent encore avec le cadre de l'époque d'Edo, qui est un cadre de rivalité entre les fiefs, entre les seigneurs, entre les samouraïs. Hein. Donc ça ne marche pas. Et comme ça ne marche pas, en plus il y a autre chose, c'est que beaucoup de samouraïs considèrent que le fusil, c'est pour les moins que rien, en fait. Hein. Donc on n'avance pas là non plus sur le plan de l'armement. On peut évidemment tenter l'assaut au sabre d'un cuirassé américain de l'époque. Ça revient un peu à essayer de piquer un tank avec un cure-dent, quoi, si vous voulez. Et ces élites de Choshu, Satsuma et Tosa ont conscience, en fait, de ces tensions, de ces décalages culturels également. Hein. Et donc, ils vont en venir à l'idée du Kokumin Kaihei que prônait Omura très tôt, en fait. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'est créé qu'est proclamé ce décret donc de la conscription en 1873.
Excusez-moi,
oui. Vous avez parlé de Kokumin Kaihei. Est-ce que je l'ai écrit? Non, je vais vous l'écrire. Hein, donc c'est le peuple. Kai c'est Mina, donc c'est tous. Et Hei c'est le soldat. Et c'est pas Bushi, hein, c'est soldat. C'est-à-dire qu'on insiste bien sur le fait qu'on n'est plus dans un rapport de classe, mais dans un rapport de fonction, en réalité. Et d'ailleurs, toute la terminologie militaire, à ce moment-là, va se mettre à changer, et on va volontairement faire le blackout sur tous les termes militaires qui sont de l'ancien système. Donc, on ne parle plus... On n'utilise plus les termes de samouraï, on n'utilise plus les termes de bushi, on utilise de qui voulait dire guerrier. Il y a comme une espèce de tabou qui se fait sur la terminologie d'ancien régime qui avait rapport à la guerre, aux batailles, à l'organisation des bataillons et tout ça. Et une des solutions, c'est donc d'utiliser la terminologie occidentale, ce qui va être fait. Oui ? Dites. Ben, c'est-à-dire que le Shimin Byodo, les premiers à le proclamer, ce sont justement les membres de l'aristocratie guerrière. Donc déjà, c'est une élite qui n'est pas forcément d'accord avec sa base, militaire d'ailleurs, guerrière. Mais il proclame l'idée qu'il faut en finir avec le système de caste à la japonaise, de manière à fonder une citoyenneté de la même manière que celle-ci existe dans les pays puissants d'Europe. Et puis ce qu'ils constatent, c'est qu'historiquement en Europe, cette accessibilité à la citoyenneté, elle a été garantie, c'est le cas de la France, mais il n'y a pas que la France en fait, hein, elle a été garantie par la participation aux faits militaires, si vous voulez, hein, à la constitution d'une armée citoyenne, d'une armée nationale, quoi. Et c'est pour ça qu'on glisse de manière assez naturelle de Shimin Byodo à Kokumin Kaihei. Parce que Kokumin Kaihei, c'est de la même manière qu'en France, le fait de faire son service militaire, c'était ce qui garantissait le fait qu'on avait la citoyenneté et des droits politiques en tant que citoyen. Dans le cas du Japon, on essaie d'utiliser la même terminologie, le même phénomène de glissement. Et pour des guerriers, d'une certaine manière, insister sur le fait militaire, c'était quelque chose de probablement naturel, je pense. Surtout que Omura, c'était effectivement quelqu'un qui était intelligent, qui avait lu beaucoup de choses, mais c'était quand même quelqu'un qui dirigeait des hommes au combat. Hein. Donc c'était pas, il fait pas partie de cette partie de l'aristocratie guerrière qui se contemplait simplement dans l'écriture ou dans l'élaboration de textes de loi. Tous ces gens-là, hein, Saigo Takamori, Omura et tout ça, sont des hommes d'action, en fait. Donc c'est pas un hasard non plus qu'ils aient raisonné en termes, finalement, d'opérationnabilité militaire. Alors la question, c'est, est-ce qu'il aurait été possible beaucoup plus tôt, on essaie de refaire l'histoire, est-ce qu'il aurait été possible beaucoup plus tôt de fonder une armée nationale ou de démarrer la construction d'une armée nationale de citoyens dès 1867, dès 1868, si les gens avaient tout de suite été d'accord avec Omura? La réponse est non. La réponse est non pour une raison qui est quand même assez simple. C'est que d'une part, il n'y a pas les besoins. Hein, il n'y a pas besoin de construire une armée d'un million de citoyens tout d'un coup, là, de 1867 à 1868. L'élite aristocratique militaire japonaise est obsédée par le fait que les Occidentaux vont peut-être venir coloniser l'archipel, mais pas à ce point, si vous voulez. On a conscience que c'est urgent, mais dans le fond, les Occidentaux sont déjà quand même bien occupés, les Français en Indochine et en Chine, et les Britanniques en Chine, en Inde. Donc on a conscience quand même d'avoir un peu de temps, le temps de l'expérimentation. Donc déjà, le besoin n'était pas le même que dans le cas de la France, où à un mois près, la France était conquise. Et je redemande le silence. Ensuite, l'autre gros problème, ça peut paraître rigolo, c'est qu'en réalité, les tuyaux ne sont pas adaptés. Instaurer la loi Jourdan tout de suite, par exemple, au Japon, dans un pays où n'existe pas l'état civil avant 1871, hein, le premier état civil au Japon, c'est 1871. C'est pas possible. Pour recruter des gens, pour incorporer des gens, pour avoir des conscrits, il faut que les gens soient recensés. Il faut que la population soit recensée. Or, ce qui garantit de pouvoir bien recenser une population, c'est l'existence de l'état civil. Or, l'état civil, il n'est pas créé au Japon avant 1871. Il va être créé dans la douleur et ne sera pas effectif tout de suite. Il va falloir presque une dizaine d'années pour que l'état civil, les officiers d'état civil, arrivent à bien faire leur travail. Et tout ça, ça va gêner l'application de politiques nationales sur le plan des recrutements. Et même une fois la conscription mise en place, les dysfonctionnements de l'état civil japonais vont avoir tendance à ralentir de manière assez dramatique les recrutements. Ça, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine, pour expliquer finalement les résistances du tissu social japonais de l'époque à cette politique de conscription. C'est intéressant là aussi de voir qu'il y a eu une politique d'État et qu'en fait, il y a eu des résistances du tissu social. Et c'est pour ça justement que la conscription est intéressante, c'est que ça permet de voir et les politiques et les résistances du tissu social par rapport à la politique qu'on essaye d'appliquer. Alors sur le papier, qu'est-ce que c'est cette conscription? Les premières incorporations, c'est janvier 1873. Et il y a un certain nombre de critères
sanitaires et sociaux qui président à l'incorporation, hein, comme dans toutes les politiques de conscription, y compris la conscription française au tout début de son histoire. Là aussi, on va utiliser des critères français sur le domaine du social et du sanitaire. Par exemple, il faut mesurer au moins 1,545 m pour pouvoir être recruté en tant que conscrit. C'est très précis, hein. Ouais. 1,545 m. Il s'agit de millimètres, quoi. Hein. Et ça peut paraître pas beaucoup, mais ça va poser des problèmes. Donc c'est intéressant parce que ça renseigne notamment sur les moyennes de taille des Japonais à l'époque. Et 1,50 m à l'époque, c'est pas encore la moyenne. Alors qu'en France, c'est la moyenne, parce que ça, c'est la moyenne française appliquée directement au terrain japonais. Donc déjà, là, ça coince une première fois. Il ne faut pas être chef de famille. Ça aussi, on voit bien la politique familiariste, par exemple, française du début des années 1870, puisque là, on prend des critères qui ont cours en France à l'époque, au début de la Troisième République. Il ne faut pas être le successeur principal d'une lignée. Ça, c'est plus japonais comme élément. Il ne faut pas être fonctionnaire. Il ne faut pas être plein de choses, en fait. Plus ensuite, la bonne vieille pratique française, du remplaçant. Ou pour la somme de 270 yens de l'époque, vous pouvez payer un remplaçant qui lui a déjà fait son service militaire et qui va rempiler pour faire le vôtre. 270 yens, pour vous donner quand même une idée de ce que c'est à l'époque, c'est un an de prise en charge d'un conscrit pour l'État équivaut à 90 yens. Donc 270 yens, c'est 3 ans de cette somme. Donc en gros, vous donnez à quelqu'un 370 yens, c'est l'équivalent de 3 ans d'entretien d'un conscrit, et il fait le service militaire à votre place. Le tout mis l'un dans l'autre, ça fait qu'à l'arrivée, c'est à peine 3 à 4% d'une classe d'âge de garçons qui vont faire le service militaire entre 1873 et 1880. Ça fait pas beaucoup, hein. Donc le Kokumin Kaihei, c'est un peu raté. On pourrait trouver ça un peu amusant de voir que finalement, vous voyez, c'est toujours le problème des décalages entre les discours, la programmation politique et ce qui se passe dans la réalité. On a un discours qui dit on va faire des Japonais une nation de citoyens soldats comme ont réussi à le faire les Européens, et au bout du compte c'est 3% de la population qui est concernée à coup d'exemption, à coup de remplaçants et ainsi de suite. Et en même temps, c'est assez terrifiant sur l'état sanitaire du pays. Parce qu'en fait, ça veut dire que sur les critères d'hygiène, c'est plus de 50% des conscrits en fait qui vont être exemptés. Ça veut dire que les médecins de l'époque considèrent que monsieur un tel, il a beau avoir tous les critères sociaux qui fait qu'il va pouvoir faire son service militaire, physiquement, s'il fait son service militaire, il va mourir. Et c'est vrai qu'au lendemain de l'époque d'Edo, il y a eu des périodes de sous-alimentation qui se sont succédées. Par conséquent, ça reflète les antécédents, on va dire, sanitaires du Japon jusque, on va dire, dans les années 1870. Et avec les politiques de mise en valeur du territoire de Meiji, petit à petit, une correction va s'opérer de manière assez naturelle de ce côté-là. Et puis enfin, pour couronner le tout, pour terminer cet échec finalement, hein, du démarrage de l'application de la conscription au Japon, les paysans ne sont pas contents du tout. Pour tout un tas de raisons, hein. C'est que d'une part, en 1873, l'époque d'Edo est encore proche. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit, c'est que la classe aristocratique militaire est complètement discréditée, et qu'en plus c'est cette classe, même si c'est Choshu, Satsuma et Tosa, c'est-à-dire que c'est plus les gens du shogun, hein, je redemande le silence. Même si ce sont, si vous voulez, des réformistes et des dissidents, finalement, de l'ancien système politique qui fondent Meiji, ça reste quand même des gens de l'aristocratie guerrière. Et quand on les voit arriver avec des réformes qui vont en gros arracher les paysans à leurs terres pour les incorporer pendant 3 ans à faire le service militaire, donc perturber le rythme économique et social de la vie des campagnes, il va y avoir vraiment de la résistance qui va s'organiser, passive, hein, mais qui va s'organiser dans les campagnes. Alors cette résistance passive, par exemple, elle va porter sur payer des pots de vin à l'officier d'état civil pour qu'il vous fasse réformer. Et puis il va y avoir des cas plus extrêmes où il va y avoir véritablement des révoltes paysannes, notamment dans le département de Okayama, où là, j'y vois arriver les recruteurs avec la faux à la main, quoi. Mais il faut dire aussi que c'est là qu'on voit qu'il y a un décalage entre les élites de l'époque et le peuple de l'époque. C'est-à-dire que les élites n'avaient pas mesuré, finalement, qu'il ne fallait pas s'adresser au peuple de cette manière-là. C'est qu'on utilise la terminologie, par exemple, de la conscription française, traduite telle qu'elle en japonais. Il y a eu tout un tas de débats à la fin de l'époque d'Edo et au début de l'époque Meiji dans les classes populaires japonaises, où on expliquait qu'en gros, on avait engraissé la classe aristocratique guerrière pour protéger le Japon, puis qu'ils n'avaient pas été capables de protéger le Japon, que ça avait coûté beaucoup d'argent au Japon, notamment au peuple. Et là, on voit arriver donc cette élite aristocratique guerrière, même si ce n'est pas exactement la même, qui utilise le terme d'impôt du sang pour parler de la conscription, du système du service militaire. Impôt du sang, terme français, qui va être traduit tel quel en japonais par le terme de ketsuze. Ketsu, c'est le sang, et ze, c'est l'impôt, la taxe, si vous voulez. Les paysans, ils voient arriver donc cette aristocratie-là qui va leur dire, il va falloir payer maintenant, en plus de payer des impôts normaux, maintenant vous allez payer un impôt du sang. Ils dégainent tout de suite, hein, les paysans dans les campagnes. Donc il y a un problème au niveau des ambitions politiques, il y a un problème au niveau des ambitions sociales, et il y a un problème de communication qui est évident. Hein? Oui, pour ce terme d'impôt du sang, pour vous le situer un peu historiquement, c'est la première fois qu'on le voit apparaître en France. C'est en 1824. C'est un général, qui est un ancien capitaine d'Empire, qui s'appelle le général Foy, hein, F-O-Y, qui est un ancien capitaine d'Empire et qui essaye de justifier le maintien de la conscription. Parce que c'est une époque où on critique beaucoup la conscription en France à ce moment-là, pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir que les restaurationnistes, ils ne sont pas tellement pour qu'il y ait des citoyens qui sachent se battre dans le pays. Oui ? Le nom du général ? Alors c'est 1824, et c'est un discours à la tribune d'un général d'Empire, enfin d'un ancien capitaine d'Empire, qui est général à ce moment-là, et qui s'appelle Foy, F-O-Y. Et voilà ce qu'il dit, ce personnage. Il dit « Messieurs, il est un impôt qui ne prend pas au contribuable une partie de son revenu ou tout son revenu, une partie de son capital ou tout son capital, mais qui lui enlève la liberté et même la vie. Cet impôt terrible, inexorable, cet impôt du sang, voilà, est cependant le plus indispensable des impôts, il est l'existence sine qua non des sociétés politiques. » Donc en gros, c'est plus Omura puisqu'il est mort le pauvre, mais cette élite du début de Meiji essaye de faire avaler ça aux paysans japonais. Sachant que, par ailleurs, quand Foy fait ce discours-là, il ne parle pas devant des paysans français, parce qu'il se serait fait zigouiller de la même manière. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ça revient à dire que ça ne marche pas bien, hein, les débuts de cette conscription, et que pendant quelques décennies, le Japon va avoir une armée qui marche sur une jambe, quoi, hein, si vous voulez. Et donc, ce service militaire, finalement, il ne finira par marcher que lorsque les réformes, les autres réformes de Meiji auront fait en sorte que le peuple surnage, s'habitue au nouveau discours des élites et tout ça. Donc, le service militaire comme creuset de la nation japonaise, c'est pas encore à ce moment-là qu'on peut dire que ça a marché. Et en réalité, quand on regarde la presse de l'époque au Japon, on se rend compte qu'on a du mal à sentir la nation, le phénomène national au Japon, avant les premières guerres, en réalité, c'est-à-dire 1894, où là, le Japon, pour la première fois, va se retrouver en guerre avec des puissances extérieures. Comme si finalement, pour voir apparaître un discours qui parle de la nation, de l'identité de la nation, du destin, du dessein de la nation japonaise, ben, il fallait attendre qu'il y ait la guerre. La guerre sino-japonaise 1894-1895 d'une part, et puis la guerre russo-japonaise 1904-1905 d'autre part. En fait, la guerre sino-japonaise, c'est une guerre qui va prouver aux Japonais, idéologiquement, hein, les Japonais vont se sentir être les Asiatiques les plus aptes à dominer les autres Asiatiques. Les Asiatiques qui seraient finalement le plus en mesure de prendre la place des Européens en Asie, quoi, si vous voulez. Il va y avoir plusieurs milliers de morts. Enfin, c'est pas une guerre qui va coûter très très cher en vie au Japon, mais c'est un succès qui va vraiment surprendre les Japonais. Les Japonais vont éprouver le besoin d'expliquer pourquoi ils avaient gagné cette guerre. Ça, on en parlera la semaine prochaine. Les Japonais vont essayer de s'expliquer pourquoi ils avaient réussi à battre la puissance chinoise. Oui ?
C'est quand
Oui, 1894-1895. Et puis c'est donc l'occasion pour le Japon, à son tour, de se mettre à développer des discours sur l'héroïsme du citoyen soldat japonais. Hein, ça aussi, c'est tout nouveau. Donc le Japonais au combat est héroïque. Hein. C'est une prose qui se met à se développer à ce moment-là. Et c'est aussi donc à ce moment-là qu'on se met à parler du japonais, avec un J majuscule. Si vous voulez. Puis la guerre russo-japonaise, c'est vraiment, ça va enfoncer le clou, parce qu'en fait c'est la guerre de deux impérialismes. L'impérialisme russe, qui tend à descendre de plus en plus du nord vers la Mandchourie, puis vers la Corée, et l'impérialisme japonais, qui après la victoire contre la Chine, a tendance à se développer lui aussi sur le continent maintenant. Et donc, la guerre va éclater entre ces deux puissances, et le Japon va réussir à mobiliser plus d'un million de soldats. Alors, vous voyez, c'est quand même, à titre d'échelle, c'est plus d'un siècle après, par exemple, la levée en masse en France. Donc, ça implique qu'en réalité, la faisabilité de la chose a vraiment réclamé du temps. Hein. Mais le fait est que ça marche très bien. Plus d'un million de soldats au combat. Il va y avoir environ 90 000 morts côté japonais au combat et 380 000 blessés. Tout considéré, en fait, cette guerre va coûter très 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 cher au Japon puisque c'est entre 40% et 50% de la capacité opérationnelle de l'appareil militaire japonais qui va être complètement mis en pièces, si vous voulez. C'est-à-dire que les Japonais vont gagner contre les Russes, mais ça va leur coûter extrêmement cher en termes d'opérationnabilité. Il va leur falloir du temps pour se refaire. Et je redemande le silence, il reste 5 minutes. Évidemment, toutes ces pertes vont fournir le matériau humain suffisant pour encore en rajouter davantage dans la logique et dans la rhétorique du le soldat japonais est héroïque, nous sommes une nation héroïque, nous avons un grand destin à avoir en Asie orientale. Alors, en arrière-plan à tout ça, il ne faut pas croire qu'il n'y a que l'impérialisme japonais, si vous voulez. Il y a aussi le désir pour le Japon de sortir du placard dans lequel ils ont été enfermés par les Occidentaux avec la signature des traités inégaux, vous vous souvenez, hein, à partir de 1854. On en a parlé. Là. Et les victoires internationales militaires du Japon à partir de 1895 vont être des coups de boutoir successifs qui vont permettre de faire tomber les uns après les autres ces traités inégaux, justement. Les Français sont parmi les premiers à renoncer à l'inégalité de ces traités. Les derniers, ce sera les Américains. Ça a été les premiers à signer les traités inégaux. Ce seront les derniers à accepter que ceci ne soit plus appliqué au Japon. Après la guerre russo-japonaise, donc dans le cas des États-Unis. À titre de rappel, les Occidentaux, les Européens à cette époque-là, enfin, au milieu du 19e siècle, considèrent qu'un État non constitutionnel n'est pas un État civilisé. Et par conséquent, on l'oblige à signer des traités inégaux. Les Japonais mettent beaucoup de temps, il n'y a pas que les Japonais, mais les Japonais mettent relativement du temps à comprendre qu'en fait, leur entrée dans le concert des puissances ne pourra se faire qu'en passant par l'élaboration d'une constitution. Et donc le Japon, lorsqu'il va devenir une monarchie constitutionnelle à partir de 1889, opère le processus qui va rendre possible la résiliation de ces traités, si vous voulez. Mais il faut du temps. C'est pas parce qu'en 1889, le Japon a une constitution que tout de suite, les Occidentaux viennent dire aux Japonais « Bon, mais puisque c'est comme ça, maintenant, on renonce à nos privilèges. » Il faut quand même que les Japonais prouvent militairement qu'ils sont en train de devenir une puissance régionale sur laquelle il va falloir compter et sur laquelle, ensuite... laquelle on va pouvoir craindre par la suite. Donc pour conclure aujourd'hui et la semaine prochaine, je rentrerai vraiment dans le détail du tissu social et sa manière d'être influencé ou de réagir. Pour conclure aujourd'hui, simplement dire que le service militaire sur le papier, il a tendance à mettre sur un pied d'égalité des Japonais qui... avant cela, fonctionnait selon un système de shiming, donc une hiérarchie en quatre castes. Mais que pour mettre ce processus d'égalité en place, c'est pas gagné, en réalité. On verra ça la semaine prochaine. Donc j'arrête là pour aujourd'hui, j'espère qu'il y aura un micro la semaine prochaine.